Vous écoutez l'épisode 163 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je vous parle des fonctions cognitives et plus particulièrement des fonctions exécutives du cerveau. Je suis Émilie Lefattan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast pour vous parler des fonctions cognitives du cerveau en faisant un zoom sur les fonctions exécutives pour que vous puissiez comprendre ce que sont ces fonctions et ensuite mieux voir comment en tenir compte dans votre pratique avec vos élèves, dans les apprentissages, mais également pour mieux comprendre comment cela peut impacter votre vie professionnelle, votre pratique professionnelle à votre niveau, puisque les fonctions cognitives et les fonctions exécutives du cerveau sont évidemment présentes chez nous aussi, les adultes. D'un côté, cela vous permettra de mieux comprendre certaines difficultés que rencontrent les élèves quand elles sont liées à ces fonctions cognitives et à ces fonctions exécutives. Et vous pourrez aussi consciemment et explicitement proposer des activités qui vont solliciter ou mobiliser ces fonctions, mais également repérer quand elles peuvent être un obstacle aux apprentissages ou un obstacle à ce que vous proposez. Et puis, d'un autre côté, la connaissance de ces fonctions peut vous être utile pour mieux vous connaître et pour mieux développer des stratégies pour gagner en efficacité dans votre travail, par exemple, ou pour identifier vos points de tension et parfois gérer différemment certaines situations qui vont générer du stress. Et puis, d'une manière un peu plus générale, il me semble aussi que cela va agir aussi en faveur d'une meilleure intercompréhension, c'est-à-dire que mieux se connaître, mieux connaître nos propres fonctionnements, ça permet aussi de mieux connaître et comprendre les autres et ça va avoir un impact positif sur nos relations, que ce soit nos relations avec d'autres adultes ou nos relations avec les élèves. Donc, je vais commencer par définir le mot « fonction », puisque je vais l'utiliser dans « fonction cognitive » et dans « fonction exécutive ». Donc, dans le sens qui nous intéresse, une fonction, c'est un ensemble de propriétés actives qui vont concourir à un but chez les êtres vivants. Et donc, à ce titre, les fonctions cognitives, ce sont des compétences, des fonctions, c'est-à-dire c'est ce dont est capable le cerveau pour nous permettre d'agir avec notre environnement. Autrement dit, c'est le traitement que va faire notre cerveau des différentes informations qu'il reçoit. Et parmi ces fonctions cognitives, il y a le langage qui nous permet de comprendre et de produire des énoncés oraux et écrits. On va avoir aussi la perception qui va nous permettre d'interpréter des informations sensorielles qu'on reçoit. Il y a ce qu'on appelle les gnosies, ou gnosies, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais qui vont nous permettre de percevoir et de reconnaître des objets, par exemple de pouvoir distinguer et reconnaître les couleurs ou les formes, les objets, les visages, etc. On a ce qu'on appelle aussi les praxies, qui vont être des savoir-faire qui concernent toutes les actions motrices, tous les mouvements que nous coordonnons dans un but précis, c'est-à-dire pour marcher ou pour nous habiller ou pour ouvrir sa trousse, pour conduire, pour utiliser son téléphone, etc. En gros, il s'agit de pouvoir transformer des idées en actions. On a les fonctions visuo-spatiales qui vont être les capacités à se représenter et à manipuler des objets dans l'espace, par exemple se repérer dans un lieu inconnu ou pour faire un puzzle ou se représenter une figure géométrique ou un solide sans avoir à le toucher, se déplacer, se situer par rapport aux objets qui nous entourent. C'est aussi les fonctions visuo-spatiales qui vont nous permettre de suivre les lignes d'un texte quand on lit ou quand on écrit, d'estimer des distances, etc. Dans les fonctions cognitives, on a aussi tout ce qui va concerner les mémoires. Donc on va distinguer selon le temps de traitement soit les mémoires à court terme ou les mémoires à long terme. La mémoire à court terme, elle va avoir une capacité limitée pour une utilisation immédiate. Elle va contenir aussi, du coup, la mémoire de travail qu'on retrouvera dans les fonctions exécutives qui va permettre de garder en mémoire des données dans le but de les traiter. Par exemple, quand vous faites un achat sur Internet et que vous devez valider avec votre banque que vous recevez un SMS et que vous devez entrer un code, par exemple, enfin, voilà, eh bien, le moment où vous retenez le code pour passer d'une application à l'autre, ben là, vous allez plutôt utiliser votre mémoire à court terme. Ou c'est aussi quand un élève retient une phrase quelques secondes dans le but de la copier. Là, c'est la mémoire à court terme. Et puis, la mémoire à long terme, ou qu'on peut appeler aussi la mémoire épisodique, elle va permettre de retenir des informations sur un temps plus long et donc elle va nécessiter vraiment une phase d'encodage, c'est-à-dire de mise en mémoire, puis une capacité de récupération après un délai. Et sur ce délai, on est sur du long terme, donc vraiment au-delà de 20 minutes jusqu'à plusieurs jours, plusieurs années. Ensuite, dans les fonctions cognitives, on a aussi l'attention. L'attention, c'est cette fonction cognitive qui va nous permettre de réagir rapidement à un signal, de rester concentré, de faire plusieurs choses en même temps. Et l'attention, elle va en fait permettre de filtrer les informations. Donc il y a ce qu'on appelle l'attention sélective, c'est le fait de pouvoir se focaliser sur une information et d'inhiber toutes les autres, donc de rester vraiment concentré sur cette information. Donc c'est cette attention qui va vous permettre par exemple de lire un livre dans le métro en ignorant la conversation du voisin ou qui va faire aussi que si vous donnez un texte à lire à vos élèves et que vous leur dites concentrez-vous sur les adjectifs, ils vont se concentrer sur les adjectifs et peut-être pas du tout faire attention au sens du texte ou aux autres détails. Donc ça, c'était pour l'attention sélective. On a aussi l'attention divisée qui, elle, va nous permettre de séparer nos ressources attentionnelles pour faire plusieurs choses en même temps. Donc par exemple, quand vous avez un élève à votre bureau que vous êtes en train de corriger et qu'en même temps, vous êtes capable d'entendre quelqu'un au fond de la classe qui est en train de faire une bêtise et de voir une main levée aussi, ben là, vous êtes sur une attention divisée. Vous séparez vos ressources attentionnelles. On a aussi l'attention soutenue, c'est-à-dire l'attention qu'on va être capable de maintenir dans la durée. Et puis parfois on parle d'attention conjointe, c'est quand deux personnes vont coordonner leur attention vers une même chose. Donc quand on tend le doigt par exemple en disant « Oh, regarde la grue », c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à diriger l'attention de l'enfant en général à qui on montre la grue pour qu'il regarde la même chose que nous. Et c'est aussi ce qu'on cherche à faire quand on explicite les objectifs d'apprentissage. Par exemple, on cherche à faire en sorte que les élèves se focalisent tous sur l'objet d'apprentissage sur lequel on veut qu'ils portent leur attention. Dans les fonctions cognitives, on va aussi avoir ce qu'on appelle les fonctions de cognition sociale, c'est-à-dire les capacités à comprendre les autres, à interagir avec eux et aussi à s'adapter aux normes sociales. Par exemple, le fait de reconnaître les émotions des autres ou de tenir une conversation, tout ça, ce sont des fonctions de cognition sociale. Ces fonctions-là, elles vont permettre de construire des représentations sur les relations entre nous et les autres et elles vont aussi nous permettre d'ajuster nos comportements sociaux en fonction des différentes situations, de comprendre les situations et de s'adapter. Par exemple, quand on fait le choix de tutoyer ou de vouvoyer quelqu'un, c'est grâce aux fonctions de cognition sociale. Et donc les difficultés qui vont être liées à ces fonctions de cognition sociale vont être par exemple des difficultés à comprendre le fonctionnement des autres et à s'adapter aux autres. Dans ces fonctions de cognition sociale, on va trouver une fonction de mémorisation sociale qui va nous permettre de nous souvenir des informations importantes, pertinentes socialement, comme les visages, les noms, les rôles sociaux des uns et des autres, les interactions passées, qui vont nous permettre du coup d'entretenir nos relations sociales à bon escient. On va y trouver aussi la théorie de l'esprit, c'est la capacité à attribuer un état mental ou une émotion à quelqu'un d'autre, à comprendre que les autres ont des états mentaux qui sont différents de nous, et de pouvoir faire des inférences correctes en fonction de ça. Donc ce qui va servir notamment en compréhension de lecture, pour réussir à imaginer les états mentaux des personnages, mais qui peut aussi servir au quotidien pour être capable d'imaginer que un autre enfant, quand on est un élève, ou même qu'un autre collègue peut avoir une façon de penser et de voir les choses différentes, et que du coup on va pouvoir s'adapter dans notre communication pour que les choses se passent le mieux possible. Dans ces fonctions de cognition sociale, on a aussi les perceptions et les connaissances sociales. C'est tout ce qui va être la capacité à interpréter ou à intégrer des signaux sociaux qui proviennent de d'autres personnes, comme les expressions du visage, le langage corporel, le ton de la voix. Et puis, on va retrouver aussi tout ce qui est raisonnement social ou aussi la reconnaissance des émotions et l'empathie. Tout ça, ce sont des fonctions de cognition sociale. Et ce que je trouve important dans le fait de les identifier, ces fonctions-là, notamment ces fonctions de cognition sociale, c'est de se dire que oui, des fois, il y a des difficultés relationnelles chez les élèves ou chez les adultes, qui vont être liées à des difficultés de certaines personnes ou de certains élèves à comprendre que les autres ne pensent pas comme eux, à être capable de s'imaginer ce que pensent les autres dans telle situation, à être capable d'interpréter le visage d'une personne pour pouvoir adapter. Je lui fais une blague, si je vois pas que son visage se décompose au fur et à mesure et que j'en tiens pas compte, je vais continuer jusqu'à ce que ça aille mal. Et il y a des élèves qui savent pas faire ça. Il y a des adultes aussi qui ne savent pas bien le faire. Et du coup, on va pouvoir mettre des mots là-dessus, même sur des situations de résolution de conflits, par exemple. On va pouvoir aider les élèves à regarder ce qui se passe. Parfois, on peut être au coin regroupement avec ses élèves et pouvoir dire « Mais regarde le visage de ta camarade, regarde ses sourcils. » Ça montre que là, elle n'est pas très contente, par exemple. Et on va pouvoir passer d'un arrête d'embêter ta camarade à quelque chose un peu plus explicite sur regarde comment elle se sent, regarde comment elle est assise, elle s'éloigne un peu de toi, elle tourne sa tête, elle remue, elle n'est pas très contente, donc voilà. Et parmi toutes ces fonctions cognitives, donc je vous ai parlé du langage, de la perception, des gnosies, des praxies, des fonctions visio-spatiales, des mémoires, de l'attention, des fonctions de cognition sociale, et on a aussi les fonctions exécutives sur lesquelles j'ai vraiment envie de m'attarder un peu plus, parce que initialement c'est d'elles dont je voulais parler en préparant cet épisode, et je me suis rendu compte qu'une introduction sur les fonctions cognitives en général était nécessaire. Donc, les fonctions exécutives, qui sont des fonctions cognitives, sont toutes les habiletés qui vont nous permettre de réaliser des actions qui sont dirigées vers un but. C'est-à-dire que quand nous voulons faire quelque chose ou quand il est nécessaire de faire quelque chose, nous mobilisons nos fonctions exécutives pour atteindre ce but. Elles nous permettent de nous adapter à des situations qui sont inhabituelles ou à des situations nouvelles ou toutes les situations qui sont complexes ou non routinières. Et ce sont donc des habiletés qui vont solliciter un haut niveau de contrôle et qui vont être très exigeantes sur le plan attentionnel. Et vous allez voir que ces fonctions exécutives, elles vont fonctionner de pair avec d'autres fonctions cognitives, comme avec la mémoire, comme avec l'attention, puisque je vous disais tout à l'heure que l'attention, elle permettait de filtrer certaines informations, et une fois que l'attention, elle va avoir filtré certaines informations, les fonctions exécutives vont prendre le relais pour aller mettre en œuvre, pour exécuter certaines choses. Donc ces fonctions exécutives, il y en a plusieurs. On parle souvent de l'inhibition ou du contrôle inhibiteur, de la flexibilité, de la planification, de la fonction de mise à jour ou de la qu'on appelle aussi la mémoire de travail, la récupération active en mémoire. Et toutes ces fonctions exécutives, elles vont être interdépendantes. Donc elles sont liées avec d'autres fonctions cognitives comme la mémoire ou l'attention. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et elles vont nous permettre d'exercer un contrôle sur nos comportements, sur nos pensées et sur nos émotions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles ne se développent pas toutes au même rythme et que leur évolution, leur développement va dépendre à la fois du développement du lobe frontal jusqu'à l'âge adulte. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, qu'elles se développent jusqu'à l'âge adulte. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'elles vont aussi se développer en fonction des expériences et des stimulations vécues. Donc ça signifie qu'en fonction des différentes situations et des différentes stimulations de ces fonctions exécutives qui auront été vécues par les élèves, elles ne se développeront pas au même rythme et de la même façon chez tous. Et donc, les situations et les stimulations que nous ferons vivre aux élèves auront un impact sur leur développement. Pour les élèves, donc ces fonctions exécutives, elles vont avoir un impact sur les apprentissages, mais aussi sur les interactions sociales. Et d'ailleurs, c'est aussi notre cas d'adulte, je vous le disais tout à l'heure. Donc la première fonction exécutive dont je vais vous parler, c'est l'inhibition. L'inhibition, c'est notre capacité à nous empêcher de, à nous retenir de faire quelque chose d'automatique. Par exemple, c'est la compétence que vous mobilisez quand vous jouez au ni oui ni non. Vous vous empêchez de dire oui ou de dire non. Bah, ce moment où vous vous retenez, là, c'est la fonction exécutive d'inhibition qui est en jeu. On s'en rend pas forcément compte, mais en fait, on s'en sert tout le temps. Par exemple, ben, quand vous vous retenez de dire un gros mot en classe ou quand vous contenez vos réactions, quand vous vous empêchez de manger tout le pain au resto parce que votre plat va arriver, quand vous vous empêchez de regarder une millième fois votre téléphone portable alors qu'il n'y a pas de notification ou quand vous résistez à aller sur Instagram parce que vous êtes en train de préparer votre journée de demain et qu'il faut résister à l'appel des notifications. Enfin bref, à chaque fois que vous vous retenez, que vous vous empêchez de faire quelque chose qui pourrait être automatique, vous mobilisez votre fonction exécutive d'inhibition. Pour les élèves, eh ben, c'est la fonction qu'ils vont mobiliser pour essayer de s'empêcher de parler sans lever la main, pour s'empêcher de parler avec leurs voisins alors qu'ils ont très envie de le faire, pour s'empêcher de siffloter en classe pendant qu'ils travaillent, pour s'empêcher de nous répondre alors qu'on leur a dit quelque chose qui ne leur plaisait pas, pour s'empêcher de réagir à tout ou de résister, pour résister aux distractions. Et quand on entend ça, je pense qu'on réalise que, en fait, on attend beaucoup que les élèves mobilisent cette fonction exécutive d'inhibition, alors que nous-mêmes, nous avons parfois un peu de mal. Et l'inhibition, en fait, elle commence à se développer assez vite et assez tôt, entre 3 et 5 ans. Mais au début, elle va aussi beaucoup dépendre de l'intervention de l'adulte. C'est-à-dire que les élèves ou les enfants ne vont pas forcément être capables de cet autocontrôle. Ils peuvent pas encore s'auto-inhiber, mais par contre ils sont capables de s'inhiber quand on leur appelle, quand on leur demande, etc. Et au final, c'est qu'à partir de 9 ans, et ça aussi ça dépendra des enfants et de ce qu'ils auront vécu, mais c'est qu'à partir de là qu'ils pourront vraiment commencer à s'auto-observer et pour réajuster d'eux-mêmes leurs inhibitions et leurs comportements. Par exemple, c'est se rendre compte que je ne suis plus en train d'écouter et m'empêcher de parler à ma voisine pour me remettre à écouter sans qu'on m'ait forcément sollicité. Ça, les élèves, ils n'en sont pas forcément capables tout de suite. C'est plutôt vers 9 ans que ça commence vraiment à être plus général. Je trouve que prendre conscience de tout ça, ça vraiment ça permet de relativiser aussi dans certaines situations et ça permet de se dire que c'est pas parce que je répète ou que mes élèves parlent tout le temps que je m'y prends mal ou qu'ils le font exprès, qu'il y a aussi une part de c'est encore difficile pour eux, donc c'est ok de répéter, de rappeler et de leur apprendre à le faire de mieux en mieux. C'est d'autant plus le cas en plus pour les élèves qui ont un TDAH, qui eux vont rencontrer encore plus de difficultés que les autres et plus longtemps pour se retenir, même jusqu'à l'âge adulte. Pour se retenir de couper la parole, se retenir de... Voilà, ça va entraîner des difficultés à se mettre dans une tâche ou à s'arrêter d'une tâche qui nous plaît, à s'empêcher d'eux, etc. Et donc ça aussi, en avoir conscience, ça permet d'ajuster nous, nos réactions et nos comportements vis-à-vis de ces élèves qui en ont besoin. Donc on va aussi pouvoir proposer aux élèves des activités, des jeux qui vont mobiliser ou entraîner l'inhibition, et on va pouvoir le faire explicitement et le dire aux élèves. Ben voilà, quand on fait ça, ça travaille notre capacité à nous retenir, à inhiber nos comportements. Et que c'est ce dont on a besoin quand on doit rester attentif, quand on doit résister à tout ce qui va nous distraire dans la classe pour pouvoir être plus concentré. Je vous donne un exemple. Dans ma classe, je disais à mes élèves, et à l'époque, je n'avais pas du tout conscience de travailler l'inhibition, je pense, vous n'êtes pas obligé de réagir à tout. Parce qu'il se passait plein de choses dans la classe et ils réagissaient quand quelqu'un faisait quelque chose, quand quelqu'un entrait, quand il y a un truc qui tombait, enfin voilà. Et donc je leur disais, on n'est pas obligé de réagir à tout, on peut se retenir de réagir. Et donc on discutait de tout ce qui se passe dans une classe et on s'était mis d'accord sur ce à quoi ils essaieraient de ne plus réagir. Par exemple, si quelqu'un faisait tomber son stylo, ou si ma collègue de la classe d'à côté, elle ouvrait la porte pour me demander quelque chose, eh bien, si on essayait de pas forcément réagir ou s'arrêter, ou en tout cas de se remettre à la tâche, ou c'était la même chose si on entendait la classe d'à côté qui sortait pour aller en séance de sport, etc. Et ce que ça change, en fait, c'est que ça devient un apprentissage. C'est-à-dire qu'au lieu de s'exaspérer, quand les élèves réagissent, quand ils font quelque chose, on peut leur faire un feedback et leur dire « Ah, ben c'est bien, vous avez réussi à pas réagir à ce moment-là. Rappelez-vous, on essaye de pas réagir, on se retient, même si on a envie. » On peut aussi leur proposer explicitement des petits jeux en leur disant « On va travailler sur notre contrôle inhibiteur, on va s'entraîner à se retenir et faire des petits jeux comme, faire une suite de nombres ou dire l'alphabet, on n'a pas le droit de dire telle lettre et telle lettre. » Du coup, on est obligé d'utiliser notre attention et aussi notre inhibition pour éviter, quand on arrive à, si on n'a pas le droit de dire la lettre M par exemple, de ne pas dire le M et de sauter la lettre. Et évidemment, on peut décliner ce principe avec des nombres, avec des couleurs, avec tout ce qu'on veut. Et puis parfois, on va travailler ça avec certains élèves qui vont en avoir besoin dans certaines situations. Je pense à des élèves un peu impulsifs. On va pouvoir les accompagner et leur proposer d'autres comportements ou des parades ou respirer. Ou bien parfois, ça va être remplacé par de la parole aussi. Il y a certains élèves qui ont besoin de passer par un moment où ils disent « je me retiens de » pour pouvoir éviter et se retenir, par exemple de taper. De dire « je me retiens de te taper » ou « je me retiens de le taper ». Du coup, c'est déjà une première étape pour améliorer cette inhibition. Une autre fonction exécutive, c'est ce qu'on va appeler la flexibilité cognitive. Donc la flexibilité cognitive, c'est la capacité à passer d'une situation à une autre ou d'une pensée à une autre et donc de pouvoir gérer tout ce qui va être imprévu de façon plutôt fluide et rapide. Donc cette flexibilité, elle peut être spontanée ou elle peut être réactive, c'est-à-dire qu'elle va... On va changer soit de façon volontaire, soit en fonction d'une exigence extérieure. Et cette flexibilité cognitive, elle va être nécessaire au développement de la pensée créative, de la créativité, c'est-à-dire de la capacité à trouver de nouvelles solutions, à imaginer des choses un peu divergentes et différentes. Et elle va aussi intervenir dans la théorie de l'esprit, dont je vous parlais tout à l'heure, dans cette capacité à imaginer des états mentaux ou des émotions pour les autres personnes, même quand on ne s'y attend pas. Donc vraiment derrière cette flexibilité cognitive, il y a cette idée d'être capable de switcher. Par exemple, hier je prenais le métro d'un pas décidé, je devais prendre la ligne 14 à Châtelet pour me rendre à Saint-Lazare rapidement pour ne pas rater mon train de 23h01. Et arrivé devant presque le quai de la ligne 14, il y avait des barrières, des rubalises, pas de métro 14. Et bien c'est la capacité à changer de plan rapidement dans ma tête sans trop perdre de temps à râler et à me morfondre qui m'ont permis permis de changer d'itinéraire suffisamment rapidement pour ne pas rater mon train de 23h01. Donc la flexibilité mentale, vous la mobilisez quand vous avez prévu de faire quelque chose et qu'il faut changer de plan à la dernière minute. Par exemple, vous aviez prévu de faire EPS dans la cour, mais il pleut, ou il y a déjà une autre classe dans la cour, ou vous pensiez travailler un nouveau texte avec vos élèves, mais vous vous rendez compte au dernier moment que les élèves le connaissent déjà ou l'ont déjà travaillé. Pour les élèves, ben, parfois, la flexibilité cognitive, ça va leur demander de très vite switcher d'une discipline à l'autre. Et ça me fait penser que dernièrement, j'ai une de mes filles qui est au collège qui me disait que sa pire journée, c'était pas la plus longue, pas celle où elle faisait 8h-17h, mais c'était celle où elle avait le plus de cours différents. Au lieu d'avoir des plages de 2 heures, par exemple, elle avait un cours qui changeait à chaque heure. Et c'était notamment encore plus pénible quand elle avait anglais et espagnol, et qu'elle avait switché d'anglais à espagnol. Et c'est ce qui lui demandait, du coup, plus de flexibilité mentale rapidement. Et je trouve que ça illustre bien la mobilisation de cette flexibilité cognitive. Cette flexibilité mentale ou cognitive, elle intervient aussi dans la compréhension de texte. Quand on s'attend à une chute ou bien quand on est persuadé que tel personnage est méchant et que finalement, il y a dans le texte un revirement de situation qui nous oblige à changer nos hypothèses. Et on mettra alors plus ou moins de temps à s'emparer des nouvelles données pour faire évoluer nos hypothèses. Et ça, je vous en parlais dans l'épisode 94, « Mieux lire, mieux comprendre ». La flexibilité cognitive, elle peut aussi intervenir dans la relation aux autres pour changer d'avis sur quelqu'un ou pour changer d'avis sur ses intentions. Et on peut la travailler en s'entraînant à changer de perspective dans différentes situations ou bien en imaginant différentes alternatives, en mobilisant sa pensée créative. Avec les élèves, par exemple, on pourrait jouer au jeu de « et si » dans différentes occasions où à chaque fois qu'on observe qu'il y a une petite rigidité ou des petites certitudes un peu ancrées. Imaginez au fil d'une lecture, vous pourriez leur dire « ah, et si tel personnage était méchant ?» ou « et si c'était pas ce que vous pensiez ?» voilà, ou « et si c'était pas ça ?» Et ça peut être, là j'ai donné l'exemple d'une lecture, mais ça peut être dans n'importe quelle situation d'apprentissage ou pas. Dès qu'on repère qu'il y a des petite certitude ou qu'il y a des choses un peu figées d'ancrer, d'inviter à imaginer une autre possibilité. Et si c'était pas ce que vous pensiez, etc. Ça peut être aussi quand vous lancez une activité. Si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et imaginons que vous cassiez votre crayon, qu'est-ce qu'on fait? Et si, et si, et si. Du coup, pour s'obliger à imaginer des possibilités qu'on n'avait pas forcément envisagées. Et donc l'autre question qui peut accompagner ça, c'est le « et quoi d'autre ?» et « qu'est-ce qu'on pourrait penser d'autre ?» et « qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment ? » ?»« Est-ce que vous avez une autre idée ?» etc. Et ça, c'est vraiment du coup s'obliger aussi dans nos gestes à aller chercher un peu plus large que ce qu'on attend et laisser la porte ouverte à d'autres possibilités. Ça nous demande donc à nous aussi de la flexibilité cognitive. Donc l'idée, c'est vraiment de s'entraîner à chercher des réponses créatives, des idées divergentes à des problèmes du quotidien. Et il y a pas mal de jeux qui demandent justement de changer de stratégie en cours de jeu. Ben, tous ces jeux-là, ils sont intéressants à proposer aux élèves pour travailler cette flexibilité cognitive, tout comme les textes un peu surprenants qui ont une chute à laquelle on ne s'attend pas et qui va obliger les élèves à changer d'avis. Au cours de la lecture. Dans les fonctions exécutives, on a aussi la fonction de planification. Et là, c'est la capacité à prévoir toute une série d'actions de façon la plus optimale possible pour atteindre un but. Donc c'est ce qu'on va faire quand on va imaginer les stratégies et imaginer aussi le timing, le temps que ça va nous prendre. Et donc c'est évidemment le cas quand un élève résout un problème à étapes, hein, il mobilise cette fonction de planification. Mais plus concrètement, c'est aussi la capacité à organiser ce qu'on va devoir faire pour se mettre à la tâche. D'abord, je colle mon exercice, ensuite je ferme mon cahier, après je prends le suivant, je mets mon mouchoir sur le coin de ma table, je le jetterai en sortant, etc. Là, quand on est en train de planifier tout ça, de façon parfois pas très consciente, on mobilise cette fonction de planification. Et même une fois la tâche planifiée, pendant qu'elle est en cours de réalisation, il faut aussi être capable de réajuster ses stratégies pendant l'action, donc en mobilisant aussi sa flexibilité mentale, sa flexibilité cognitive, pour pouvoir s'assurer que la planification, elle est toujours efficace et qu'il n'y a pas des réajustements à faire. Pour certains élèves, par exemple, je prenais le temps de leur faire mettre des mots sur la planification. Quand j'envoyais un élève pour, par exemple, donner un message à la directrice, j'envoyais volontairement un élève qui avait besoin de travailler ça. Et selon les élèves, je leur faisais planifier et visualiser, avant de quitter la classe, par où ils vont passer, ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils diraient, etc. En classe, on peut tenir compte de ça pour donner des objectifs vraiment clairs et verbaliser avec les élèves les stratégies de manière donc très explicite, mais même avant de lancer les élèves dans une tâche, une production d'écrit par exemple, ou un exercice, ou bien un changement d'activité, on peut institutionnaliser un temps de pause pour pouvoir permettre aux élèves de planifier leurs tâches sans se lancer immédiatement. Et parfois, nous-mêmes, on induit ça. On veut que les élèves se mettent tout de suite au travail sans leur laisser ce temps de planifier et sans les aider à le faire. Donc, on va pouvoir maintenant mettre des mots avec eux et les inciter à prendre ce temps de planifier. Attends, comment tu vas faire? Par quoi tu vas commencer? Et sans forcément leur dire, parce qu'on peut aussi avoir ce biais-là de planifier à leur place et de leur donner toutes les étapes, ce qui est nécessaire à certains moments pour cadrer, et à d'autres moments, pour les autonomiser, de pouvoir leur permettre de passer à la planification sans que ce soit nous qui le fassions à leur place. Et ça, c'est valable vraiment à tous les niveaux. On va adapter évidemment ce sur quoi on va planifier, aider les élèves à planifier et à quel moment. Et on pourrait accompagner les élèves sur la planification des tâches au début d'un devoir sur table, même au lycée. Par exemple, se dire, ok, quand vous arrivez devant tel type de devoir, comment je gère, qu'est-ce que je regarde, dans quel ordre je le fais, et pouvoir en discuter avec eux. C'est vrai que parfois, on leur donne des critères de réussite, mais on ne va pas forcément aussi détailler la planification des tâches. Qu'est-ce que je fais quand je me retrouve devant tel type de texte, ou tel type de sujet, ou tel type de document. Là, on peut vraiment aller encore plus accompagner cette planification-là. Donc la planification, elle va être considérée comme une fonction exécutive de haut niveau, avec d'autres fonctions exécutives comme le raisonnement, c'est-à-dire la capacité à conceptualiser, à raisonner de manière logique. C'est ce qu'on fait quand on essaye de comprendre une règle dans un algorithme, par exemple, et aussi avec la résolution de problèmes, et c'est pas seulement la résolution de problèmes mathématiques, mais la capacité à raisonner pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes, même des problèmes du quotidien. Donc voilà pour les fonctions exécutives. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que le stress et l'humeur peuvent altérer le bon fonctionnement des fonctions exécutives. Donc quand on est fâché, énervé, triste, tout ça, ça va altérer le bon fonctionnement de notre capacité à inhiber, de notre capacité à planifier, de notre flexibilité cognitive, notre capacité à raisonner, à utiliser notre mémoire de travail, etc. Et s'il me semblait vraiment important de vous parler des fonctions exécutives, c'est parce que les comprendre, les connaître, ça va nous permettre de devenir plus explicites. Ces fonctions exécutives, comme je vous le disais, elles se développent avec l'âge, mais aussi beaucoup en fonction des expériences vécues, c'est-à-dire qu'il y a un fort impact de l'environnement, un fort impact aussi des pratiques éducatives, des relations adultes-enfants, de la culture. Et donc, nous pouvons, en modelant, en décomposant, en mettant des mots sur les stratégies, nous pouvons favoriser leur développement. Et ça change aussi notre posture et notre état d'esprit, ça change notre regard. Ça va nous permettre de repérer ce qui est lié aux fonctions exécutives et de pouvoir encore mieux l'accompagner, notamment pour les élèves à besoins éducatifs particuliers Et prendre conscience de ces fonctions exécutives va permettre de segmenter les choses, de proposer des activités, des jeux, des expériences qui aident à en prendre conscience ou à mobiliser ces fonctions exécutives. Donc, si on récapitule, les fonctions cognitives du cerveau, ce sont toutes les propriétés du cerveau qui vont lui permettre de traiter les informations pour que nous interagissions avec notre environnement. Et parmi ces fonctions cognitives, il y a les fonctions exécutives qui sont un peu comme la tour de contrôle ou le chef d'orchestre de tout ça, parce qu'elles vont nous permettre de réaliser des actions dans un but précis, en nous permettant soit d'inhiber, de planifier, de changer de plan, de réajuster, de raisonner, de mémoriser momentanément des données pour les traiter, pour pouvoir passer à l'action. Et elles sont très corrélées à d'autres fonctions cognitives comme l'attention et les mémoires. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire deux fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.